Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Voici une histoire de médecin légiste que je tire du livre du docteur Michel Sapané, légiste à Poitiers. Autre chronique d'un médecin légiste, chez Pocket. Voici l'histoire d'un meurtre commis un soir de réveillon, pour pas grand-chose. Je l'ai écrite avec Nicolas Loupien, la réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
C'est un 1er janvier, et je rentre d'un séjour au ski. Et j'avoue qu'après les fêtes, disséquer un cadavre putréfié, un vieux macabé pourri, alors qu'on digère à peine le foie gras et les huîtres, ça peut vous gâcher la reprise. Mais, coup de chance, mon premier cadavre de l'année est en parfait état de conservation. Il arrive tout droit de l'hôpital, d'abord celui de La Rochelle, puis le CHU de Poitiers. C'est un homme de 44 ans, athlétique. Il a été roué de coups dans la rue la nuit du réveillon. Par qui ? On ne sait pas. Je commence par regarder son dossier médical. À son arrivée aux urgences de La Rochelle, il avait une fracture à la tempe droite, ok ? Une importante contusion cérébrale, une pneumo-encéphalie, c'est-à-dire de l'air dans la boîte crânienne, et une hémorragie en arrière des deux orbites. Et enfin, un œdème comprimant le cerveau. Eh ben dis donc, il a pris cher, hein. Le jour même, il a été transféré en neurochir à Poitiers, ok. Ils ont tenté de faire baisser la pression intracrânienne en faisant un petit forage dans l'os du crâne et en passant une sonde, d'accord. Il est mort 2 jours plus tard. Et donc le procureur de Charente-Maritime me demande de déterminer les causes de la mort. Naturellement, je commence par un examen externe. Il a une grosse plaie au cuir chevelu à l'arrière de la tête, et la lèvre supérieure éclatée, et une incisive qui est partie. Vous avez vu, là ? Sur le nez et sur la joue. On voit assez clairement la marque d'une semelle. Une semelle de chaussure, hein. Et enfin, l'œil droit est fermé par une énorme ecchymose. C'est un carnage. Mais tout ça n'entraîne pas forcément la mort. Et donc je commence à ouvrir. Une grande incision sur toute la longueur, du pubis au menton, les côtes au sécateur. Bon, le thorax et l'abdomen ne m'apprennent rien. Alors, je me lance dans la dissection de la tête, qui a été la cible principale des coups. J'incise le cuir chevelu, d'une oreille à l'autre, en passant par le sommet du crâne, et je rabats les deux parties, la première vers l'avant, sur les yeux, et l'autre sur la nuque. Et là, je découvre une dizaine de lésions, bien séparées. On les voyait pas, hein, ces lésions, sur le cuir chevelu. Bon, c'est normal, hein, le cuir chevelu est très épais. Faut souvent plusieurs jours pour que le sang remonte et qu'on voit quelque chose dans les cheveux. Et puis, il y a la fracture du crâne révélée par le scanner. Mais quand on la voit, elle est beaucoup plus impressionnante. Elle va d'un bout à l'autre de la tête. Ensuite, j'ouvre la boîte crânienne avec une sorte de meuleuse. Je retire la partie supérieure du crâne, un peu comme un couvercle, et j'extrais à la main le cerveau. Et ensuite, je le coupe en tranches. Ah ouais, ouais. Où on voit clairement les lésions cérébrales, là, vous voyez ? Là, là, là. C'est très marqué, hein. Bon. Voilà, je sais de quoi est mort cet homme. D'un traumatisme crânien grave, associé à 8 ecchymoses ou hématomes sur le crâne, et 4 impacts violents sur le visage. Voilà donc une affaire rondement menée. Et j'écris tout ça dans mon rapport au procureur. Et quand j'ai terminé, je ne sais pas que cette histoire va me rattraper dans 1 an et demi. Entre-temps, les enquêteurs ont mis la main sur une petite bande de 5 jeunes, dont 2 mineurs, et ils sont parvenus à reconstituer ce qui s'est passé. C'était donc le soir du réveillon. Depuis son balcon, notre homme a vu la petite bande en bas, dans la rue, qui tournait autour d'une voiture. Il s'est dit « ce sont des voleurs, ça n'était pas sa voiture, hein ». mais il est descendu. Et il était bourré, bien sûr. C'était le réveillon. Et voilà, il a voulu les raisonner. Et il en a pris plein la gueule. Et il en est mort. Un an et demi après mon autopsie, le juge d'instruction chargé de l'affaire m'appelle.
Dites-moi, docteur, parmi les mises en examen, j'en ai un qui reconnaît le jet d'un petit pavé à la tête de la victime. Hein, il dit qu'il ne l'a pas jeté de loin, il dit à environ 30 cm de distance. Et il dit qu'il ne l'a pas jeté fort. Et il dit surtout qu'à ce moment-là, l'homme s'est écroulé et qu'il n'a jamais plus bougé. Je voudrais donc savoir si c'est le coup mortel, quoi. Vous pouvez travailler là-dessus ?
Heureusement, j'ai conservé le cerveau dans le formol. Je ne l'ai pas entièrement disséqué à l'époque, j'ai juste pratiqué une coupe. Parce que sinon, ça serait de la bouillie. C'est fragile, un cerveau. Et donc, je confie ce cerveau à un confrère qui est un expert en anatomopathologie. Il le regarde au microscope. C'est très intéressant, Michel, hein ? Regarde, parce que au-delà des hématomes visibles à l'œil nu, on a des lésions beaucoup plus discrètes, là, tu vois ? Des contusions cérébrales. Et là, il faut que je vous explique. Dans un traumatisme crânien, les lésions cérébrales peuvent avoir plusieurs causes. Il y a d'abord des chocs directs, par exemple, le choc d'un petit pavé, il vient percuter l'os de la tempe, l'os éclate, l'os pénètre dans le cerveau, et il provoque un bel hématome cérébral. Ça, c'est le premier cas. Mais il y a aussi, deuxième cas, des lésions qui viennent d'un phénomène d'accélération-décélération. Exemple, le type tombe en arrière, et sa tête vient percuter le sol. Et là, à l'impact, le crâne est brutalement arrêté. Mais le cerveau a gardé une certaine vitesse, qui est celle de la chute. Et donc il vient à son tour percuter les parois du crâne, sur lequel il s'écrase et il se déchire. Autre exemple. Un coup de pied dans le visage, bam ! La tête part brutalement en arrière, mais le cerveau prend du retard. Il a gardé son inertie. Et donc il vient percuter le crâne au milieu du front. Et quand il y a comme ça plusieurs coups violents portés sur la tête, le cerveau se retrouve à faire la balle de ping-pong dans sa boîte. Et notre conclusion à tous les deux, l'anatomopathologiste et moi, eh bien, c'est qu'on ne peut pas, qu'on ne sait pas dire quel coup a provoqué le décès. C'est comme ça. Deux ans plus tard, me voilà convoqué devant la cour d'assises de Saintes pour le procès de la petite bande. Mais l'un des accusés, celui qui a lancé le pavé justement, n'est pas là. Il était libre et il s'est enfui dans son pays d'origine, de l'autre côté de la Méditerranée. Bien. Son témoignage étant capital pour la compréhension de cette affaire, nous prenons la décision d'ajourner le procès. L'audience est levée. Un aller-retour pour rien. Mais un an plus tard, le type rentre à son chez-lui en France. Et il est arrêté. Et je suis donc à nouveau convoqué à la barre, à Saintes. Et cette fois, les cinq sont dans le box. Et juste avant mon intervention, l'un des cinq fait un aveu. Un aveu qu'il n'avait pas fait jusque-là.
« Je reconnais que je lui ai donné un coup de pied dans le visage. Je le reconnais. »
Ah, je n'avais pas rêvé. C'était bien la trace d'une semelle. Et à partir de là, il y a un doute sur la cause de la mort, dans lequel évidemment les avocats de la défense s'engouffrent. Est-ce que c'est le coup de pied à la tête ou est-ce que c'est le pavé à la tempe? Et moi, voilà ce que je dis à la barre.
Je dirais que c'est l'ensemble des coups. L'ensemble des coups qui entraînent le décès de la victime.
Et le verdict tombe. Ils sont tous condamnés à des peines de 4 à 8 ans de prison. Sauf le meneur qui prend 12 ans de réclusion criminelle. Le meneur est le seul à faire appel. Et donc un an plus tard, je le retrouve seul dans le box des assises de Poitiers. Et je redis ce que j'avais dit la première fois.
Mes conclusions sont que c'est l'ensemble des coups qui provoquent le décès de la victime.
Et quand j'ai fini, l'avocat de la défense se lève. Il agite ses manches de façon théâtrale. J'ai l'habitude, hein. Il va passer à l'offensive. Il va essayer de me déstabiliser pour défendre son client. Mais ça ne m'impressionne plus. L'essentiel est de rester calme, de ne pas se sentir agressé.
Monsieur l'expert, êtes-vous sûr qu'il y a eu autant de coups? Parce que moi, je n'en compte pas autant que vous. Hein. Alors je vous en prie, reprenez votre décompte. Je maintiens qu'il y a eu 11 ou 12 coups, dont un coup à la nuque parfaitement corrélé à un hématome. Mais dans ce cas, monsieur l'expert, vous comptez 2 coups, un pour la plaie et un pour l'hématome? Non? Non, c'est un seul impact. Mais je ne peux pas dire si c'est un coup porté par un objet ou par une chute en arrière ou par un coup de semelle en plein visage. Je ne peux pas le dire. Et là, l'avocat reprend ses mouvements de manche. Il quitte sa table, il vient se mettre à ma droite, légèrement en arrière, et il sort le grand jeu.
Monsieur l'expert, j'ai dans mon dossier les avis d'un médecin légiste et d'un neurochirurgien de ma connaissance, dont les conclusions sont totalement en contradiction avec les vôtres.
Je vois le piège, et je n'aime pas ça. Il va distiller des informations censées provenir du travail de mes confrères sans que je puisse avoir la totalité de leurs écrits. Et le président, lui aussi, est surpris.
Maître, je n'ai pas connaissance de contre-expertise. En tout cas, elle n'a pas été ordonnée par le juge d'instruction, et à minima, le résultat aurait dû être communiqué aux parties avant le procès.
Je dois mettre tout de suite un coup d'arrêt à cette tentative de déstabilisation.
Maître, je peux m'étonner quand même que vous n'ayez pas fait citer mes confrères à la barre. Enfin, j'aurais eu plaisir à en débattre avec eux.
J'ai à peine terminé que l'avocat de la partie civile se lève d'un bond.
Il a raison. Enfin, c'est un scandale. Ces pièces n'ont pas été communiquées à la partie adverse.
Et là, le président.
Effectivement, c'est un problème. Maître, vous n'avez pas informé la Cour de l'existence de ces documents. Qu'en pensez-vous, monsieur l'avocat général?
Eh bien, j'en pense que les arguments évoqués par monsieur l'avocat de la Défense ne sont pas recevables. Et j'en pense par ailleurs que le docteur Sapané est un expert très sérieux, hein, qu'il a une réputation nationale, voire internationale, et qu'il est très hasardeux de vouloir contester son expertise par des documents que par ailleurs nous n'avons pas.
La Défense a-t-elle quelque chose à ajouter?
L'avocat fait demi-tour et il va se tasser dans son fauteuil. Son coup de poker a échoué. Et la cour condamne l'accusé à 10 ans ferme. Ce que j'ai découvert au cours de ces 2 procès, c'est que cette histoire, ça n'est pas l'histoire d'un cambriolage. Quand le pauvre type qui est mort est intervenu, il n'avait pas l'intention de voler la voiture. Et pour cause ? C'était la voiture du meneur de la bande. En vérité, il voulait y mettre le feu, comme ça se fait chaque année au Nouvel An, pour que le meneur, qui avait des dettes, touche la prime d'assurance. Et donc on a un mort pour une arnaque à l'assurance. J'ai tiré cette histoire du livre du docteur Michel Sapané, Autre chronique d'un médecin légiste, paru chez Pocket. Demain, une autre histoire de médecin légiste.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.